Avenue. Toute cette semaine, Martin Kénéen rencontre Bartabas. Ce soir, les cinq sens du centaure.
Dans une lettre à sa mère, Flaubert écrivait « À cheval, votre esprit trottine d'un pas égal par tous les sentiers de la pensée. Il va, remontant dans les souvenirs, s'arrêtant aux carrefours et aux embranchements, foulant les feuilles mortes, passant le nez par-dessus les clôtures. » Et c'est ça que je vous propose aujourd'hui, Bartabas. Vous êtes écuyer, dresseur et pédagogue, chorégraphe et metteur en scène. Vous avez fondé le théâtre équestre Zingaro il y a 33 ans, mais aussi l'Académie équestre de Versailles en 2003. Et aujourd'hui, vous êtes, disons-le, auréolé de gloire, de crainte à l'occasion, et toujours de mystère. Pour notre premier entretien, je vous propose de partir du corps et des sens. Parce que vous y insistez, quand vous êtes avec un cheval, ce sont des entretiens, dites-vous, silencieux, fondés sur l'écoute du corps, et que malgré les sollicitations d'interview, vous dites qu'on ne peut pas expliquer, au mieux on peut ressentir. Et puisque l'un de vos spectacles s'intitulait « Entre-aperçu », en hommage à une phrase de Victor Segalen, « Tant de choses entre-aperçues ne pourront jamais être vues », je vous propose de chercher dans votre mémoire un souvenir presque préhistorique de quel premier cheval vous vous souvenez, Bartabas ?
Oh là, oh là. Je ne sais pas, et j'ai jamais trop cherché à le savoir d'ailleurs, parce que plus je remonte dans mes souvenirs, c'est pas peut-être le souvenir d'un cheval, mais c'est bizarrement, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient croire, c'est plutôt une vision de peur à dominer, quoi. Et j'ai analysé ça, je me suis dit, je dis souvent, j'ai toujours été fasciné par les chevaux, puisque moi je suis né à Courbevoie. Comme chacun sait, à Courbevoie, il n'y a pas de chevaux. Donc mes parents m'ont toujours dit, mon père qui était architecte, donc il n'avait rien à voir avec les chevaux non plus. Et toujours que j'étais fasciné par les chevaux, mais genre à l'âge de 3-4 ans, dès que je voyais un cheval au bord de la route, il fallait s'arrêter. Mais ça, j'en ai pas vraiment une conscience, moi, approfondie. Par contre, je pense, en analysant les premières sensations, on va dire, je vais pas appeler ça souvenir, je vais appeler ça sensation. C'est effectivement des sensations de... Quand on me disait j'étais fasciné, qu'est-ce que c'est la fascination? C'est un mélange d'effroi et d'admiration, en fait. De peur et d'admiration. C'est ça la définition de la fascination. C'est ça que j'ai ressenti pour les chevaux. Donc peut-être un de mes premiers souvenirs, ça a été de dominer ma peur. Parce que quand à 5-6 ans, j'ai dû monter à cheval très tôt, à l'âge de 5 ou 6 ans, j'ai voulu monter sur un cheval, pas sur un poney, quoi. Et je suppose qu'il y avait quand même de l'effroi, parce que quand tu mesures, je sais pas moi, 1m20, tu montes pas sur un animal de 600 kilos comme ça, et tu connais rien de l'animal, ni de son comportement, ni de ses réactions. Il faut que tu apprennes à dominer ta peur, quoi, à vaincre ta peur de l'autre. Et c'est en analysant, je me suis toujours dit que c'était la première leçon que m'avaient donné les chevaux, en fait. C'est-à-dire la leçon primaire, la plus importante, c'est-à-dire ne pas avoir peur de l'autre, vaincre sa peur de l'autre et essayer de comprendre ce qui vous paraît incompréhensible, quoi. Première fois. Maintenant, évidemment, je suis face à un cheval, je peux vous dire à 10 mètres exactement ce qu'il va faire, ce qu'il pense. Mais à cette époque-là, voilà, t'es face à un animal qui est beaucoup plus grand que toi, qui a des réactions complètement imprévisibles, incontrôlables pour toi, en tout cas, que tu n'as l'impression de pas connaître. Donc il faut quand même une certaine dose de culot pour oser monter dessus. Il n'y a pas de code de lecture, quoi. D'ailleurs, on en revient à... C'était un des moteurs qui m'a fait faire ce dernier spectacle. C'était apprendre aux spectateurs à lire un cheval, quoi, en fait. Qu'est-ce qu'il pense, comment il pense, pourquoi il pense ça. Et le pari, il était là, de savoir si comme un acteur qui joue, voilà, qui pense, est-ce qu'un spectateur peut rentrer dans la peau d'un animal qui lui parle d'humanité parce qu'il pense, quoi. Le voir penser, tout simplement, sur scène, déjà, quoi.
Voir penser l'animal, mais puisque, justement, on est encore dans ce premier sens qui est la vue. Vous avez pu dire, je crois que c'était face à un tableau de Géricault, Bartabas, qu'il y a quelque chose dans le regard des chevaux et que dans ce regard, vous voyez une mémoire, une époque d'avant l'humanité.
Oui, bah ça c'est le... Disons que c'est quelque chose que je ressens assez profondément, que m'a souvent... j'habite dans ma caravane à côté des chevaux, donc maintenant ça va mieux, mais pendant très longtemps, j'étais carrément insomniaque. mais carrément. Donc ça m'arrivait très souvent d'aller la nuit, je rentrais dans les écuries, j'allais voir les chevaux dans les boxes, quoi. Et c'est vrai que encore aujourd'hui, dans le regard du cheval, je dis pas de l'animal en général, parce qu'en fait j'en sais rien, j'aime pas dire les animaux en général, en tout cas de ce que je connais, c'est-à-dire mes chevaux, j'ai une certaine paix, quoi, une certaine tranquillité, c'est-à-dire que quand je dis, je vois dans leur regard presque la naissance d'un monde, quoi, hein, d'avant la présence des hommes, c'est que le cheval te regarde d'un air, une espèce de paix intérieure, il a l'air de te dire, si j'étais là bien avant toi, je serais là encore bien après toi. Et c'est pas la peine de t'exciter avec tes petites histoires de théâtre équestre, de troupes et compagnie, quoi. Tout ça, c'est pas grand chose, en fait. Donc ça me, une espèce de sérénité, de calme, quoi. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ce qu'était la condition de l'animal, en fait. C'est-à-dire, on dit souvent, les chevaux, est-ce qu'ils sont intelligents? J'ai toujours droit à cette question-là. Je dis, encore faudrait-il commencer par définir l'intelligence, quoi. Donc après moult réflexions, moi j'en suis arrivé aux conclusions suivantes, c'est que la seule chose qui différencie l'homme de l'animal, je sais pas si on peut appeler ça l'intelligence, c'est la conscience de n'être qu'une poussière dans l'univers, c'est une véritable conscience pendant toute sa vie, donc la conscience de la vie et de la mort, quoi. Et ça, à ma connaissance, je pense qu'il n'y a que l'humain qui l'a. Cette obsession de dire, à partir de l'âge de 4 ou 5 ans, un enfant commence à se rendre compte qu'on peut mourir. Puis quand il devient adulte, ça prend une forme plus concrète. Il sait qu'il en a pour un certain temps sur Terre, plus ou moins long, mais bon, dans une certaine fourchette, raisonnable, on va dire. Et donc, qu'il n'est qu'une poussière dans une composante plus grande que lui, qui est l'univers, quoi. Et c'est ça qui l'obsède, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il a inventé Dieu. C'est pour ça qu'il a inventé l'art, voilà, c'est pour essayer d'exister au-delà de lui-même, pour répondre à des questions qui le taraudent, quoi. Alors, si on suit ce raisonnement, je pense que l'animal n'a pas cette conscience. Le cheval n'a pas cette conscience. Il peut avoir la conscience de la faim. Moi, j'ai des chevaux qui sont morts dans mes bras, où tu sens, voilà, tu ressens que le cheval a compris que c'était la faim, mais il n'a pas été obsédé toute sa vie par le fait qu'il allait mourir un jour, comme nous, on l'est, quoi. Donc, c'est ça la grande différence, je pense. Alors, est-ce que c'est ça qu'on peut appeler l'intelligence? Cette capacité à se projeter comme ça. Oui, et à ce moment-là, est-ce que l'intelligence est un avantage? Pas sûr. Au final, qui est le plus heureux? L'animal qui ne sait pas qu'il va mourir un jour ou l'humain qui sait qu'il va mourir un jour et qui n'endort pas la nuit?
Alors, si l'humanité a inventé Dieu, vous, Bartabas, vous avez inventé Zingaro, le théâtre équestre. On s'y trouve
aujourd'hui.
J'aime bien
la comparaison, oui.
Pour vous s'entretenir avec vous. Et à propos de la vue, j'y reste encore un instant. Qu'est-ce que vous voyez, vous, ici, quand vous arrivez au théâtre équestre de Zingaro, au fort d'Aubervilliers? Qu'est-ce que vous voyez, vous, avec cette construction en bois, là, dans ces caravanes?
Bah, j'allais dire, on ne voit plus rien, nous, parce qu'on y est tellement baigné dedans que c'est l'extérieur qui nous dit, mais vous vivez dans un... Alors on peut appeler ça un rapport poétique au monde, on peut appeler ça comme on veut, quoi. Une espèce d'esthétique brinque-ballotante, en même temps pleine de poésie, quoi. De nostalgie aussi, je dirais. Mais sans, on s'en rend même plus compte, parce que c'est pas du décor, c'est notre vie, quoi. Donc même quand on étale nos vieux costumes, nos machins dans le restaurant, c'est une composante de nous-mêmes, c'est même pas une décoration, c'est pas un décorateur qui a dit, tiens, je vais poser ça là pour faire joli. Ici, c'est un lieu de vie, hein, en même temps qu'un lieu de travail. C'est la spécificité de Zingaro, puisqu'on vit sur notre lieu de travail. On vit notre acte artistique, je vais dire 24 heures sur 24, jusqu'au fait qu'il soit complètement entremêlé avec la vie quotidienne, quoi. Et donc, si on se balade derrière, comme une espèce de campement, moi j'appelle ça la favela, voilà, qui a une certaine poésie, quoi, en fait. Et c'est assez drôle, d'ailleurs. On a souvent des discussions avec Patrick Bouchain, mon ami architecte, qui s'est dit, on n'a fixé aucune règle. On n'a pas dit, voilà, il est interdit de mettre un parpaing ou un machin. Et pourtant, il n'y a rien, il n'y a pas de mauvais goût. Donc c'est bien que quand tu ne fixes pas des règles, par l'harmonie de la vie, une certaine pensée, se crée une esthétique de vie, en fait. Sans qu'on ait besoin de dire, attention, tu n'as pas le droit de mettre ça, pas le droit de monter à telle hauteur, de régir des lois pour que ce soit esthétiquement harmonieux. C'est harmonieux de nature, puisque tous ces gens partagent cette passion et cette vie commune, quoi. Et donc, ça se retransmet jusque dans l'habitat, jusqu'à ce que vous appelez le décor, qui pour nous est l'habitat, en fait, quoi. Et c'est notre monde, on se rend bien compte que Alors, bien sûr, en analysant un peu, et d'ailleurs ce qu'on retrouve dans les spectacles, souvent j'entends dire, ah, il y a beaucoup de nostalgie dans vos spectacles. Oui, forcément, parce que quand tu travailles avec des chevaux, t'es forcément nostalgique. On se rend bien compte qu'on détient un savoir qui est en train de disparaître, quoi. Il est clair que le cheval ne fait plus partie du quotidien des gens. Il devient quelque chose de très artificiel maintenant, alors qu'il a accompagné l'humanité pendant des siècles et des siècles dans toutes ses tâches. Il l'a aidé à s'élever. Maintenant, on est au siècle où l'homme a un peu abandonné le cheval, quoi. Et là, jusqu'à peut-être sa disparition, hein, parce que faut pas oublier que le cheval a été créé par l'homme, hein. C'est-à-dire que c'est une création de l'homme domestique quelque part, quoi. Donc le fait de n'être plus qu'un objet de loisir et de sport, ce qui est le cas en tout cas dans nos civilisations encore ici en Occident, ça annonce peut-être la disparition tout simplement du cheval au long terme, quoi. Moi, c'est sûr que j'aurais bien aimé vivre à l'époque au tout début du siècle dernier ou même celui d'avant, où voilà, on sortait dans la rue à Aubervilliers, il n'y avait que des chevaux. La casse, c'était une vente de chevaux d'occasion. Voilà, c'est le rêve pour moi.
Alors vous êtes nostalgique, Bartabas, d'une époque où on entendait le pas, le souffle des chevaux dans les rues. Parlons de Louis. Quand on convoque ce sens-là à propos des chevaux, on pense d'abord au hennissement. Vous savez, hennir ? Et qu'est-ce que ça veut dire ?
Je ne sais pas. Ma communication avec les chevaux ne passe ni par les mots, ni par la vue, ni par l'ouïe, bizarrement. Quoi. Elle passe vraiment par la pensée, par le corps. Mais ça, on y reviendra peut-être plus tard. Non, l'ouïe, pour moi, c'est associé évidemment à des bruits plutôt angoissants. Parce que pendant très longtemps, moi, je vivais avec mes deux chevaux dans mon camion. Donc, je vivais à côté, vraiment à quelques mètres, quoi, pour pouvoir les surveiller jour et nuit. Ma grande angoisse, c'était un cheval qui se coince dans son box la nuit. On n'entend pas, donc voilà, il faut se réveiller pour l'aider à se relever parce qu'il est coincé. Ça peut... Donc, les bruits, pour moi, peuvent être associés à des problèmes. Là, vous voyez, derrière ma caravane, il y a les écuries. J'entends tous mes chevaux. Là. Si j'entends des hennissements en pleine nuit, c'est quelque chose qui ne va pas. Parce que normalement, les chevaux, ils dorment la nuit. Donc, s'ils hennissent, c'est qu'il y a un problème. Donc, c'est bizarrement le son des chevaux peut être associé plutôt à une inquiétude pour moi. Après, il y a évidemment le pas du cheval sur le sol, quoi, qui est quelque chose d'agréable, qui est une petite musique qui t'accompagne au niveau, comme un rythme, quoi, comme une cadence quand tu travailles les chevaux. Le poser d'un membre, d'un pied sur le sol, le pied d'un cheval sur le sol, ça va être différent au pas, au trot et au galop, au passage, au piaffé. Voilà, donc chaque air va avoir la manière dont le cheval va appréhender le sol. C'est quelque chose de très très fin. Hein. C'est comme un danseur qui se réceptionne d'une pirouette, ne fait pas le même son au sol qu'un danseur qui fait un pas chassé. Voilà. Donc c'est un peu la même chose. Quoi. Donc j'ai chaque, moi je travaille beaucoup avec ça. Souvent, c'est ma musique rythmique, on va dire. Quoi. Voilà, un cheval qui va poser, par exemple, un posé d'antérieur de pas d'école, qui a un pas suspendu, ne va pas être le même qu'un pas actif ou qu'un pas. Pour parler, ne serait-ce que dans la même allure, il y a déjà toute une palette de sons différentes. Après, et puis après, ça dépend du sol aussi, quoi. Mais voilà, mais en tout cas, c'est jamais un choc.
Et s'il y a un son que vous poursuivez, en particulier aujourd'hui, avec Ex Anima, qui est votre dernier spectacle, et qui est peut-être le dernier spectacle, on y reviendra, de la compagnie du théâtre équestre Zingaro, c'est le souffle.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a dans le souffle d'un cheval qui serait différent du souffle de l'humain ? De l'homme.
Avec cet animal, l'idée c'était le souffle de l'âme, hein, plutôt. Donc donc ça peut être la flûte déjà qui accompagne le spectacle. Et l'idée que l'expiration pour moi est très importante chez les chevaux. J'ai un peu créé, inventé même une certaine façon de travailler avec mes chevaux. J'étais obligé de le faire quand j'ai travaillé sur des scènes avec Golgotha, le centaure et l'animal, où je travaillais sur des espaces très petits avec des chevaux montés, mais qui ne pouvaient pas avoir. On dit souvent que un bon travail de dressage, c'est un travail de dans l'énergie, dans la décontraction. Enfin, moi, c'est mon sens de travail. Hein. C'est l'énergie naît de la décontraction, pas de la contraction. Donc, il faut qu'un cheval soit décontracté pour pouvoir développer une énergie, une amplitude de mouvement, pour faire vite, quoi. Mais sur scène, l'espace est tellement petit que la moindre contraction du cheval peut être désagréable à regarder. D'un coup, le cheval n'a pas l'air de se mouvoir naturellement, quoi. Et donc, j'ai fait tout un travail avec un cheval qui s'appelle Soutine. J'ai commencé avec lui, qui était un travail de décontraction sur le souffle, sur l'expiration. C'est-à-dire inspiré de pas mal de techniques plutôt humaines, hein, de respiration. Et en gros, pour vous faire vite, l'idée, c'est que le cheval est arrêté, j'attends qu'il expire, et quand il a expiré l'air qu'il a dans ses poumons, il a le droit de se mettre dans le mouvement en avant. Donc c'est très long. Il faut être très patient, parce que des fois, tu peux attendre jusqu'à 5-10 minutes, le cheval arrêté. Et une fois qu'il a compris le processus, dès que tu travailles et que tu vois que la moindre contraction, tu arrêtes, le cheval pousse super, et tu peux repartir. Et le cheval repart avec une cadence complètement calme et décontractée. Voilà, c'est un peu une méthode de travail que j'ai un peu instaurée, mais qui demande beaucoup, beaucoup de patience. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait une qualité de soupir qui était très très différente selon les chevaux, et même du même cheval, selon son apprentissage. Tu peux avoir un soupir court, hein, ou un soupir très long, enfin voilà, c'est, ça c'est... Voilà, vous allez croire que je délire, mais je ne délire pas du tout. Enfin, à ma connaissance, je suis le seul à avoir travaillé un peu dans ce sens-là, quoi. Mais c'est vrai que c'est une voie que je suis en train de... Pour l'instant, je l'ai essayé avec 2-3 chevaux, parce que c'est le principe du travail équestre, c'est que c'est tellement long. Dresser un cheval, il faut 5-6 ans. Donc même si tu faisais que ça toute ta vie, tu n'en fais pas tant que ça, en fait, quoi. Donc ça se restera toujours des expériences comme ça que tu peux transmettre, mais tu ne peux pas en faire des théories, quoi. Enfin, voilà, quoi.
Et on approche avec vous, Bartabas, votre art, l'art équestre du Théâtre Zingaro et de l'Académie équestre de Versailles, par les 5 sens. Parlons de l'odorat. Il y a un fameux parfum de Guerlain, habit rouge, qui, dit-on, je crois que c'est en 65 qu'il a été créé, et Jean-Paul Guerlain disait qu'il avait essayé de retrouver à la fois l'odeur corporelle du cheval mêlée à celle du cuir et de la forêt. Alors je ne sais pas si pour vous, le cheval, les chevaux, parce que je pense qu'il y a une odeur par cheval, qu'est-ce que c'est que votre rapport à l'odorat avec vos chevaux, Bartabas ?
Là, on mélange souvent un peu tout, le cuir, les chevaux, ça, c'est un truc qu'on entend souvent, ça. Alors c'est vrai que ça dépend de ce qu'on appelle les souvenirs olfactifs liés aux chevaux, peuvent être souvent des odeurs d'écurie, de manège, voilà, qui sont des odeurs très particulières, effectivement, quoi. En même temps de cuir, d'humidité, de... Voilà. Et après, si vous parlez de l'odeur du cheval lui-même, alors là, c'est une autre histoire, parce que chaque cheval a effectivement son odeur. Et là, je vous surprendrai en disant que, pour moi, les très bons chevaux sentent très bon. Il y a des chevaux qui sentent très bon, et il y a des chevaux qui sentent pas bon, qui puent de la gueule, quoi, si vous voulez. C'est vrai, hein, c'est un signe même de santé, quoi. Un peu comme les humains, quoi. Ils ont un problème de dents, de digestion, de... Voilà. Et ça, moi, les yeux fermés, je peux reconnaître l'odeur du caravage, de Soutine, d'Horizon, de tous mes chevaux, quoi. Évidemment, quoi. Puis après, t'as la sueur qui a une odeur aussi particulière. Alors ça, c'est surtout dans les chevaux de sport que c'est intéressant. Parce que moi, mes chevaux, je ne suis pas beaucoup. Mon travail est très, notamment sur la décontraction, que c'est très rare qu'à la fin d'une séance, un cheval sue. Mais par contre, chez les chevaux de course, par exemple, tous les grands entraîneurs disaient dans le temps, une de leurs méthodes d'appréhender si un cheval est prêt ou pas, c'est la qualité et l'odeur de sa sueur, quoi. C'est un cheval qui est prêt, qui a une sueur très claire, parce que voilà, il a déjà expurgé tout ce qu'il devait expurger. Puis un cheval qui a une sueur très, très épaisse et qui sent, c'est un cheval qui a encore beaucoup besoin de travail, quoi.
Mais alors, vous dites que les chevaux de course, c'est différent. Il se trouve que là, on est avec vous, Bartabas, au Théâtre équestre Zingaro, avec les chevaux danseurs de ce corps de ballet. Il y a le corps de ballet aussi de Versailles. Et puis, vous avez une écurie de course, l'écurie Zingaro.
Ouais,
Quelle relation physique, justement, sensorielle et peut-être sensuelle, vous avez avec ces chevaux-là?
C'est les seuls que je touche pas. Voilà, parce que c'est un peu lié d'une amitié. Moi, j'ai commencé dans les courses très jeune, hein. J'ai monté en course. Donc, j'ai renoué d'amitié avec Jean-Paul Gallerini, qui était à l'époque un jockey là où je montais, qui est devenu un grand entraîneur. Et voilà, et ensemble, j'ai monté une petite écurie et c'est lui qui les entraîne. Mais moi, je ne les touche pas, ces chevaux-là, je veux dire.
Vous touchez que l'argent,
je les regarde. On essaye de pas en perdre trop.
Un grand gagneur.
Oui, c'est pas fait pour gagner de l'argent, c'est fait surtout pour éviter d'en perdre, quoi. C'est plus un plaisir, quoi. Puis bon, les courses, c'est quelque chose que j'ai toujours défendu parce que, hélas, en France, elle a une assez mauvaise réputation, très liée au jeu, etc. Contrairement à l'Angleterre. Mais pour moi, ça reste un très, très beau spectacle. Mais c'est les seuls chevaux que j'allais dire que j'admire, mais que je ne touche pas, quoi.
Mais alors, est-ce qu'on peut dire quelque chose de votre apparence aussi à Zingaro et sur les champs de course? Parce qu'il y a des photos de vous.
Exact.
Quand vous allez célébrer les victoires. Alors, il y a votre casquette qu'on trouve, qu'il pleuve ou qu'il vente, que ce soit à Aubervilliers ou à Longchamp. Et puis, vous avez des tenues extraordinaires avec...
Non, disons, quand je vais aux courses, c'est la seule fois de ma vie où je mets une cravate, un costume et une cravate. Je ne mets jamais de cravate, je ne mets même jamais de chemise. Alors, Mais voilà, mais là, j'estime que pour moi, ça fait partie de. Quand tu possèdes des chevaux de course, tu fais partie d'un décorum, tu fais partie du décor comme un figurant quelque part. Donc tu te dois, ne serait-ce que pour par reconnaissance pour les chevaux qui vont courir, par voilà, par respect, tu te dois de suivre les codes d'habillement. Donc ça, je le respecte, je le fais comme je mettrais un déguisement, si vous voulez, comme un costume. Ça fait partie, un des éléments de l'esthétique des courses, quoi. Qui tend à disparaître, faut bien le dire, parce que maintenant il n'y a plus grand monde sur les champs de course, ça devient un peu tristoun, quoi, hélas. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que c'était le seul moment où ça aurait pu, au lieu de le vendre comme un truc de jeu ou de riz, ça aurait dû être vendu comme, pour moi, à mon avis, les courses, comme une sortie à la campagne le week-end. Voilà, pour les gens qui n'ont même pas les moyens de sortir de Paris, quoi. Je veux dire, voilà, tu vas au Bois de Boulogne, tu vas à Auteuil ou tu vas à Longchamp, tu passes l'après-midi à la campagne avec des chevaux, tu peux jouer une petite piécette comme tu serais à la fête foraine, tu jouerais. Moi, je suis pas joueur, mais bon. Voilà, et ça pourrait être bon enfant, quoi. Comme ça l'est en province, d'ailleurs, hein, souvent, sur les champs de course de province, il y a un côté plus fête, quoi, qui est un peu perdu à Paris.
Mais alors?
Les Parisiens sont tous des têtes de chien.
Vous voyez bien, enfant parisien tête de chien de Courbevoie, dans ce milieu des courses hippiques, vous envisagez même d'être jockey, et puisqu'on parle des cinq sens, allons-y franchement sur le toucher, alors vous avez grandi trop vite, et puis vous avez eu un accident, alors je ne sais pas si c'est de mobylette, de moto, les légendes divergent.
De mobylette, parlons sous de un camion, je me suis fait rouler dessus par un semi-remorque. Mais non, je me suis quand même rendu compte assez vite que je n'aurais pas la taille jockey. Mais donc je voulais monter en course pour l'expérience, mais je voulais être entraîneur de chevaux de course au départ, très jeune, à 15-16 ans. Donc ouais, je partais du lycée à Courbevoie, je partais de chez moi à 4h du matin pour aller au cours, et après j'enchaînais avec ma journée de lycée qui, vous imaginez, ne devait pas être très brillante, parce que l'après-midi je devais piquer un peu du nez certainement. Et voilà, mais moi, et donc quand je me suis rendu compte ensuite que pour être entraîneur, il fallait plus entraîner le propriétaire que le cheval, j'ai dit c'est pas pour mon caractère, c'est pas pour moi. Donc voilà, donc j'ai abandonné ça. Et puis c'est vrai que j'ai eu un accident qui s'est un peu précipité les choses, on va dire, quoi.
Mais en quoi il vous a fait tourner Kazakh,
cet accident ? Parce que j'ai quand même passé 6 mois sur un lit d'hôpital où on a failli m'enlever le pied carrément, quoi, hein, m'amputer. Voilà, j'étais à Garches, là, donc voilà, et puis je m'en suis sorti, et puis j'ai dû faire de la rééducation. Et là, plutôt que faire de la rééducation toute bête pendant encore 6 mois, j'ai pris des cours de danse et de mime, d'ailleurs. C'est ce qui m'a, voilà. Et puis, de là, ça a basculé progressivement. J'ai remonté un petit peu encore en course, mais enfin bon. Voilà, quoi. Mais ça a été pour moi, et ça reste d'ailleurs toujours une expérience très enrichissante, parce que c'était une de mes analyses du monde du cheval, hein, qui est un monde très particulier, qui a, c'est le cas de le dire, des œillères, quoi. C'est-à-dire que les gens des courses ne veulent pas entendre parler des gens du concours hippique, ils ne veulent pas entendre parler des gens de, je ne sais pas moi, de l'attelage et du spectacle, etc., ou de la tauromachie à cheval, etc. Or, chaque discipline a de très bonnes choses à prendre. Il y a des mauvaises, il y a des bonnes choses à prendre, quoi. Et les courses m'ont appris beaucoup de choses, même dans mon travail de dressage, quoi. Voilà, des notions sur l'impulsion, sur l'écoute des chevaux aussi. Pareil, le pur sang est une race de chevaux assez particulière qui a, comme son nom l'indique, beaucoup de sang, donc beaucoup de réactivité. Donc le temps de réaction est très court il faut avoir un temps de réaction, de réflexe très très développé, quoi. Donc d'ailleurs, c'est des chevaux passionnants à travailler, les pur sang. Pour moi, c'est les plus intéressants.
Mais vous avez dit au détour d'une phrase que vous aviez encore un peu, après votre accident, monté en course. Oui. Quelle sensation, puisqu'on est dans les sensations là aujourd'hui,
très singulière, particulière. T'as l'impression d'être sur un chat, un énorme chat. C'est-à-dire que les courses, ça va très très vite. La première fois que tu montes en course, tu comprends rien. T'as l'impression, ça a duré, je sais pas, peut-être 1 minute 30, et t'as l'impression que ça a duré un quart d'heure, quoi. Parce qu'évidemment, c'est comme quand vous savez, quand tu fais un tonneau en voiture, tu vois tout lentement, hein, ou un tête à queue. Bah, c'est un peu ça. Tes sens sont complètement en éveil. Ça va très très vite. Et le son est très fort dans un peloton. On voit pas ça d'extérieurement, de loin. On croit que c'est très esthétique, mais c'est assez violent. Hein. D'abord, t'es assez serré, tu prends des coups, ça fait beaucoup de bruit. Et puis voilà, un cheval qui saute, des fois il se récupère à toute vitesse. T'as l'impression d'être sur un chat qui hop, c'est très particulier comme sensation.
Mais alors, il y a la violence du peloton et de la course hippique. Il y a la violence du jeune et fougueux Bartabas. On va avoir l'occasion d'y venir, sinon sa violence, du moins sa fureur. Et puis, il y a la douceur. On est dans le toucher, là. Il y a vos caresses. On les voit magnifiées dans le film d'Alain Cavalier, Le Caravage, qui vous filme au travail avec le Caravage, l'un de vos chevaux, Bartabas. Qu'est-ce que c'est que cet art de la caresse qu'on adresse, que vous adressez à vos chevaux?
Je veux dire, c'est très simple. Souvent, on voit les gens qui caressent les chevaux comme s'ils tapaient sur un éléphant. Mais il faut savoir qu'un cheval ressent une mouche qui se pose sur sa peau. Hein. Donc, quand vous le caressez, vous devez le caresser aussi doucement que vous caressez un être humain. Hein. Parce qu'il est peut-être même plus sensible que l'être humain au niveau tactile, quoi. Donc, la grande caresse, la grande tape dans le dos, ça va quand elle est dans le dos. Voilà, donc c'est tout simplement ça. Le cheval est très sensible, bien sûr. Voilà, un cheval va ressentir une caresse très très fine, comme une caresse justement, comme un encouragement, comme un chuchotement. Moi, je parle très peu à mes chevaux, mais je chuchote. Et tout doucement, des petits mots, et le cheval, et tu développes son écoute aussi, la sensibilité de son écoute. Si tu l'habitues à être toujours caressé par des grandes claques, bon,
J'ai une dernière question pour aujourd'hui. Il nous manque l'un des cinq sens, c'est le goût. Et il se trouve que, en visite chez les Yakouts en Sibérie, on vous a invité, Bartabas, à un festin un peu particulier qui avait, je crois, un goût un peu amer pour vous. Ouais. Vous avez mangé du cheval.
En fait, je ne l'ai pas mangé. D'ailleurs, j'avais un petit Mars dans la poche, heureusement. Mais bon, j'étais très gêné parce que j'étais préparé mon film Chaman en Sibérie. Et donc, j'allais voir des chevaux Yakouts qui étaient dans la forêt, quoi. Et ils ont une vie très difficile là-bas en pleine Sibérie où il n'y a pas grand-chose, quoi. Il n'y a pas de légumes, hein, il n'y a pas de tomates, ça ne pousse pas comme ça en plein hiver, il n'y a rien. Et donc on va déjeuner dans une espèce de cahute. Il y avait une grande table où il y avait effectivement un festin de tout, de viande, de soupe, et tout était à base de cheval, quoi. Viande de cheval, saucisson de cheval, soupe.
Comme dans la chanson de Bobby Lapointe.
Voilà, donc à un moment, j'ai eu un peu de mal, quoi, quand même, quoi. Mais
vous avez réussi à ne pas en manger.
Oui.
Donc vous ne connaissez pas le goût de la viande de cheval?
J'en ai mangé, bien sûr, j'en ai mangé, mais en France, quoi, j'ai mangé de la viande de cheval. D'ailleurs, au départ, bizarrement, je n'étais pas spécialement contre, dans la mesure où je vais peut-être vous surprendre, mais moi, je suis un amoureux des races lourdes. Alors, c'est terrible à dire, mais des races lourdes ont été créées par l'homme pour remplir des tâches. À l'époque, chaque région avait son propre cheval, le Boulonnais, l'Ardennais, le Percheron, qui correspondait à une région de France, et un travail spécifique. Donc un cheval qui avait une morphologie qui correspondait à ça. Or, tous ces travaux des champs, des forêts, pratiquement, à part le débardage, ont disparu. Donc les races lourdes sont en voie de disparition. Les haras sont fermées, etc. Et la seule chose qui reste encore pour faire naître des chevaux lourds, c'est la boucherie chevaline. Donc c'est quand même un paradoxe. C'est-à-dire que si demain on devait interdire de manger de la viande de cheval, c'est l'extinction totale pratiquement de ces races lourdes. Parce que ce n'est pas les quelques babacools qui tirent des algues ou qui attellent des chevaux qui vont sauver la race, quoi. Donc c'est un peu un paradoxe, comme souvent dans la vie.
Conclusion, manger du cheval.
Conclusion, manger du cheval,
le
si vous aimez
ça. Conseil de Bartabas.
Bien pour France Culture, ça, manger du cheval. Conclusion, Bartabas, cet entretien, manger du cheval, tout à fait.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre entre Martin Kénéen et Bartabas. À voix nue, coordination Claire Poinsignon, prise de son Thomas Robin, réalisation Véronique Lamondour. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr.